Oui, avec un très beau soleil, il fait très froid car nous sommes dans cette ferme qui est à Clairvoye. Il doit faire 2 ou 3 degrés et les petits chevreaux qui sont nés cette nuit sont massés les uns contre les autres. Je suis en compagnie d'Inès de Rincourt qui est donc la fermière. Et il n'y a pas que des animaux domestiques dans le monde, il y a aussi des animaux sauvages. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, ce 3 mars, c'est la journée mondiale de la vie sauvage. Voilà, les animaux tropicaux et puis les animaux d'ici. Bonjour Inès de Rincourt.
De Rincourt. Bonjour Guillaume.
Que faites-vous ici? Expliquez-nous en quoi consiste votre exploitation.
Alors nous, nous sommes une ferme caprine. Nous élevons donc des chèvres. La finalité première, c'est de faire du fromage de chèvre qu'on appelle le picodon. C'est une AOP Drôme Ardèche.
Alors, donc vous faites tout depuis le grain jusqu'à ce fromage que vous produisez. C'est-à-dire que votre spécificité ici, c'est de contenir l'ensemble des éléments de la chaîne.
Voilà, on a 18 hectares, dont 5 qu'on cultive en céréales. Je dis on, mais en fait c'est plutôt Daniel, mon compagnon, qui s'occupe de la culture du fourrage et des céréales. Et c'est ce qui va nous servir à donner à manger à nos chèvres. On est en autonomie alimentaire. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui nous permet de vivre correctement avec nos 58 chèvres. Et ensuite, on fait nous-mêmes la fabrication du fromage. Donc on fait effectivement de la graine jusqu'à l'assiette.
Et alors, l'une des choses qui vous permet de vivre, c'est qu'en fait, le lait qui généralement est vendu à des coopératives ou à des grandes entreprises, vous le transformez en fromage et c'est ce qui vous permet donc effectivement d'assurer une marge plus confortable.
Voilà, on valorise parfaitement bien notre litre de lait de chèvre. On le valorise à 3 euros puisqu'on fait à peu près 2 picodons au litre et un picodon en direct vendu sur le marché, on le vend 1,50 euros.
Alors que si vous vendiez ce litre de lait, vous le vendriez à 55 centimes, je crois, à des grandes entreprises. Donc on voit qu'il y a là effectivement une filière intégrée qui fonctionne bien. Vous êtes entièrement bio ici ?
On est entièrement bio, oui, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Concrètement, ça veut dire qu'on n'utilise pas d'intrants chimiques et qu'on fait de la monte naturelle pour nos chèvres et qu'on essaye de... On utilise très peu d'antibiotiques pour les soins de nos chèvres et on utilise uniquement des produits en agriculture biologique pour la fabrication, etc.
Vous êtes aidé également par la PAC. Quelles sont les différentes aides dont vous bénéficiez aujourd'hui, Inès de Rincourt?
Alors, la PAC, nous, si on pouvait s'en passer, on serait ravis. Ça voudrait dire qu'on vend nos fromages de chèvres beaucoup plus cher aussi. Là-dessus, on est tous conscients de ça. Quelles aides on a? On a des aides pour les terres, par rapport aux terres dont on dispose, et on a des aides aussi par rapport aux animaux qui sont présents dans notre chèvrerie.
Ces aides, elles représentent quoi par rapport à votre chiffre d'affaires annuel?
Par rapport à notre chiffre d'affaires annuel, il me semble que nous, on a un chiffre...
Vous ne laissez pas déconcentrer parce qu'il y a une chèvre qui est en train de manger votre pantalon.
Oui, c'est Cabriole. Cabriole qui est en train d'essayer de grignoter des petites choses. On a un revenu annuel de 18 000 euros. Et on touche, je ne sais pas, d'aide PAC, c'est plus mon compagnon qui va connaître ça, c'est à peu près 8000 euros par an.
Et aujourd'hui, vous êtes une agricultrice heureuse, paysanne d'ailleurs, vous insistez sur le terme.
Oui, j'aime beaucoup ce mot de paysanne, il y a le mot pays dans paysanne, c'est quelque chose qui nous convient puisque nous on est une petite ferme, on fait de la petite agriculture, on n'est pas des industriels de l'agriculture en fait. On essaye de faire ça de la façon la plus naturelle possible.
Alors, il n'y a pas que des éleveurs de chèvres ici dans la Drôme, aux côtés de Soues, il y a également des agriculteurs qui font différents types de cultures, et notamment Benjamin Tron, qui lui est en cours de conversion bio et qu'a rencontré notre reporter Maïwenn Guizio.
On a 39 hectares en bio. D'abord, j'avais converti un site, donc là-bas, 4 km derrière la montagne. En premier, là-bas, c'est là où j'ai converti en premier. Donc il y avait 29 hectares. Puis après, bon, ben, petit à petit, j'ai converti d'autres parcelles. Après, on a un gros îlot là-bas qu'on m'envoie là-bas en face. On a 45-50 hectares. C'est plusieurs parcelles, hein, mais c'est situé dans le même quartier. Et après, on a un troisième îlot un peu plus loin, également de 30 hectares. Et là-bas, en face, vous voyez, qui est bien vert, un îlot là-bas qui est irrigable avec la petite rivière qui passe à Bordeaux, le Roubion. Et là, actuellement, c'est du blé dur de semences. C'est quelque chose qui me plaît aussi pas mal, c'est qu'au niveau céréales, on a un marché français. Et donc, les prix bougent pas du tout. Enfin, ils bougent, mais pas au niveau du conventionnel où ça peut perdre 100 euros la tonne du jour au lendemain. Et c'est vrai que les prix sont assez stables parce que c'est des marchés locaux. Hein, les coopératives revendent aux meuniers du coin et compagnie. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup. En bio, on a cet avantage-là qu'on sait à peu près où on va. Alors qu'en conventionnel, on engage telle surface, telle production, et puis quand on fait les semis au mois d'octobre, et quand on arrive à la récolte au mois de juillet d'après, on ne sait pas si on va le vendre à un prix vraiment en dessous du coût de production, ou si on va rembourser notre coût de production, ou si on va sortir quelque chose. Alors qu'en bio, on sait à peu près où on va.
Le bio, ici, nous sommes dans une ferme bio. Nous sommes en compagnie d'Inès de Rancourt, de la chef qui sourit. Et à côté de vous se trouve Serge Guillère. Bonjour Serge Guillère, vous êtes secrétaire général adjoint de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Drôme. Vous êtes producteur d'ail de semences. Expliquez-nous en quoi consiste votre exploitation, Serge Guillère.
Bon, déjà, je commence par remercier France Culture de l'invitation, parce que c'est sympa de pouvoir un peu parler d'agriculture, je veux dire, sur une radio nationale. Donc c'est vrai que pour nous, en tant qu'agriculteurs, c'est quand même intéressant. Donc je suis essentiellement producteur d'ail de semences, comme vous l'avez dit. La différence entre l'ail de semences et l'ail de consommation, parce que je vous le dis tout de suite, pour que la question n'arrive pas, c'est que l'ail de semences est planté, et que l'ail de consommation est tout simplement mangé. Donc, c'est la différence. Nous représentons 70% au niveau de la production nationale en ail de semences, et nous représentons 30% de la production nationale, tout confondu, semences et consommation, au niveau national. Donc, nous sommes le premier producteur, on va dire, Rhône-Alpes, en ail, bien sûr, et nous faisons partie, bien sûr, comme je vais plus vous le dire, du premier producteur de semences au niveau national.
Est-ce que vous êtes un agriculteur heureux ?
On l'a eu été, on l'est moins. De par les revenus des trois années antérieures, je veux dire, on peut pas être heureux. Quand on s'aperçoit qu'on se lève le matin et qu'on ne sait pas comment on va finir la journée entre les banques, la MSA et de comment on va payer nos factures, c'est vrai que le monde agricole, ça devient très inquiétant aujourd'hui de pouvoir arriver à s'installer.
Votre ail de semences, vous le vendez combien et il vous revient combien, Serge Guillère ?
Alors, combien on le vend ? C'est difficile pour nous le dire. On sait une chose, c'est qu'on a un prix de revient qui est de 2,70 €. Et malheureusement, les années antérieures, on l'a vendu en dessous de ce prix-là. Pour l'année 2016, c'est un peu mieux passé. On a été au-dessus de cette moyenne, ce qui nous a permis de pouvoir nous mettre un revenu que les trois années antérieures, malheureusement, on n'a pas pu vivre de revenus agricoles.
Mais alors, qu'est-ce qui vous met dedans ? Comment ça se fait que les cours mondiaux de l'ail sont en deçà, d'après ce que vous dites, des coûts de production ?
Alors, le problème qu'on a au niveau de ces coûts de production, c'est qu'on a un coût de main-d'œuvre déjà qui est très élevé. On a des charges d'exploitation.
Parce qu'il faut rappeler que l'ail exige pas mal de main-d'œuvre.
Voilà. Exige pas mal de main-d'œuvre. Et sachant que les pays tiers, comme la Chine, nous envahit avec une main-d'œuvre bien sûr bien moins élevée et un prix inférieur à nous. Donc le problème, ça enlève quand même un gros potentiel au niveau France. C'est-à-dire que le problème du marché, il est bloqué. On ne peut pas vendre parce que les prix sont élevés.
Donnez-nous une idée. Vous avez dit que c'était au-delà de 2,70 € du kilo, votre coût de revient. En Chine, ils vendent leur ail à quel prix ?
1 €. Non, mais 1 €... rentrée français, et encore, c'est pas tout à fait
juste. Ah oui, donc il y a une vraie différence, quoi.
Il est eu rentré à 0,60 €, je veux dire, dans notre pays. Comment voulez-vous que nous, on puisse arriver à s'en sortir derrière, sachant que on peut pas, à ce prix-là, pouvoir y arriver, c'est pas possible.
Est-ce qu'il y a une différence de qualité entre l'ail chinois et votre ail?
Disons que nous, on a un cahier des charges, qu'on ne sait pas ce qu'il a. Donc quand on parle d'environnement dans notre pays, il faudrait bien que l'environnement soit quand même pour les pays tiers, ainsi que les autres pays européens.
Inès de Rancourt, justement, quand on parle de cahier des charges, vous, dans votre chèvrerie, est-ce que vous avez beaucoup de normes à satisfaire? Est-ce que vous trouvez d'ailleurs qu'il y a trop de normes auxquelles vous êtes soumis? Je rappelle que vous, vous faites du bio, par ailleurs.
Alors, nous, on est installés depuis 7 ans. On s'est installés en agriculture biologique. On s'est installés dans ce qu'on appelle la biovallée. On a un cahier des charges en picodon, en AOP, mais on s'est installé avec, donc ça n'a pas vraiment été un souci pour nous puisqu'on avait choisi de s'installer avec cette appellation. On s'est installé en agriculture biologique, c'était un choix vraiment, c'était par rapport à une éthique qu'on avait de manière très personnelle. Nous, on n'a pas du tout les mêmes problèmes. On vend tout en direct et la seule chose sur laquelle on pourrait se plaindre, c'est de notre temps de travail. Mais on l'a choisi.
Temps de travail qui est important. Je crois que vous avez même fait le calcul pour savoir à peu près combien vous ramenait votre travail en termes de.
Oui, alors on a
salaire horaire.
On a calculé très grossièrement qu'on pouvait on gagnait 3 à 4 euros de l'heure. Mais franchement, vous avez vu ce lever de soleil ce matin ? Voilà quoi.
C'est un beau lever de soleil, effectivement. Le panorama est superbe, mais bon, j'imagine que lorsqu'on produit à perte, Serge Guillard, malgré le panorama, on peut avoir légitimement quelques soucis et quelques ressentiments. Vous pensez qu'il faudrait changer quoi dans l'agriculture française ?
Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Bloquer les frontières, première chose. C'est-à-dire que le problème, on a fait une Europe qui ne nous rend pas service, l'Union européenne que tout le monde cite, que tous nos élus citent, et qu'à la sortie, eh bien, on y est perdant au milieu. Vu qu'on fait partie du pays européen qui avons le plus de charges, je veux dire, on ne peut pas s'en sortir au niveau des autres pays, c'est pas possible. Je peux vous citer des exemples. Je vous cite l'exemple du porc. Un exemple qui est très très simple. Il y a 10 ans en arrière, on était identique, c'est-à-dire qu'on avait la même quantité de porc entre l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, l'Allemagne produit 250% de plus de porc que nous. Mmh. Où est le problème ? Et on monte toujours l'Allemagne du doigt, écologiquement, environnementalement parlant, et à la sortie, bon, on s'aperçoit que l'Allemagne, eh ben, le problème, elle a un coût de production bien moins élevé que nous. Donc je pose la question des fois aux élus, pourquoi ? Le commun, on ne sait pas.
Et il faut dire d'ailleurs, il faut le rappeler que les éleveurs de porc sont ceux qui ont le revenu le plus bas des agriculteurs. Ils gagnent en moyenne moins de 12 000 euros par an, ce qui veut dire qu'ils ont de vraies difficultés pour arriver à un équilibre dans leurs exploitations. Serge Guillard, vous n'êtes quand même pas aidé par l'Europe ? Vous n'avez pas des aides de la PAC ?
Oui, mais les aides de la PAC ne comblent pas le déficit quand même.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que la PAC vous rapporte ?
Alors, je peux vous dire ce que la PAC me donne. La PAC me donne autour de 20 000 euros. Mais 20 000 euros ne veut pas dire grand-chose. Quand on voit qu'on fait des résultats d'exercice, des fois à moins 10 000, donc heureusement, merci qu'on a la PAC, parce que si on ne l'avait pas aujourd'hui, je ne sais pas comment qu'on arriverait à combler en revenus.
Apparemment, ce qui fait la différence entre votre exploitation et celle d'Inès de Rancourt, c'est qu'Inès de Rancourt, ils ont la totalité de la chaîne depuis l'orge qu'ils donc font pousser sur leur terre jusqu'au fromage, donc qu'ils vendent directement aux producteurs. Est-ce que finalement, le vrai problème des agriculteurs comme vous, c'est d'être soumis à des cours mondiaux, à une chaîne de production dans l'agroalimentaire que vous ne maîtrisez pas, malheureusement?
Tout à fait. On ne maîtrise pas tout, malheureusement, parce que quand la PAC est arrivée, le problème qu'on a eu avec ça, c'est qu'on est parti sur un cours mondial. Donc, vous savez ce que c'est que le cours mondial. C'est le cours de tout le monde et c'est le cours au plus bas prix. Je vais vous citer un exemple sur une baguette de pain. Ouais. Une baguette de pain à 72 centimes d'euros. 0,05 centimes d'euros pour l'agriculteur. Le problème, il faut des 0,01 centimes de plus pour que l'agriculteur puisse arriver à s'en sortir. Donc je veux dire, c'est quand même pas grand-chose. Ça ne ferait pas une taxe qui serait très importante sur le consommateur. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette baguette de pain. On a le même problématique.
Il y a quelque chose à dire. C'est que, alors vous faites de l'ail de semence, mais lorsqu'on achète de l'ail pour le consommer, pour les êtres humains, on se rend compte que l'ail, c'est plutôt cher. Supermarché, l'ail, c'est 6 euros le kilo.
6 euros encore, il n'est pas cher dans une GMS. Quand vous le voyez des fois entre 12 et 15 euros, conditionné en 250 grammes,
là, c'est vrai que ça vous fait de l'argent là-dessus.
Alors, je vais, pour ne pas la citer, la GMS. La GMS nous dit toujours, eh bien, écoutez messieurs, le problème, il faut qu'on ait un revenu. Oui, certes, mais nous, on n'en a pas besoin.
Alors, il y a effectivement cette solution-là. L'autre solution, c'est de se convertir en bio pour pouvoir augmenter les marges. Avec la question des intrants, Maïwenn Guizhou, vous êtes allé à la rencontre d'un producteur pour cette question donc, de l'utilisation de produits phytosanitaires et de différents types de produits chimiques.
Oui, Guillaume, le gouvernement projette de durcir les règles d'utilisation des produits phytosanitaires aux abords des haies, bosquets, mais aussi des habitations, et demande plus généralement aux agriculteurs de réduire l'utilisation des intrants sur leur culture. Alors, pour Jacques Beaumont, qui est producteur d'ail de semences à graines, cultiver sans produits phytosanitaires, c'est possible, mais la transition va demander un temps d'adaptation.
Soit les produits qu'on emploiera ne seront pas du tout agressifs pour l'être humain, on va dire, voilà, pour rester optimiste. Soit effectivement on perdra les fameuses zones autour des habitations. On s'est toujours adapté, on s'adaptera encore. Hein. Mais bon, quand on traite une parcelle d'ail, c'est pas pour notre plaisir, hein. C'est par obligation. Et ça, c'est vrai que les générations entre deux ont traité peut-être sans se demander pourquoi, hein, parce que le technicien avait dit il faut faire. Là, déjà aujourd'hui, on traite parce que c'est obligatoire pour sécuriser la culture, mais pas systématiquement non plus. Hein. On a des outils pour surveiller les apparitions de maladies, etc., qu'on faisait peut-être pas il y a quelques années. Donc déjà, ça va nous permettre sûrement de réduire un peu les intrants phyto. Hein, voilà. Et peut-être, pourquoi pas un jour s'en passer, hein, parce que là, bon, les techniques elles s'approcheront certainement de ça. Mais aujourd'hui, on est encore entre les deux quand même. Hein.
Merci Maïwenn Guizhou. Serge Guillère, vous êtes producteur d'ail de semences. Serait possible de passer en bio pour vous ?
Alors, à l'heure actuelle, non. Je ne pourrais pas. Pour la bonne raison, c'est que l'ail de semences, bon, j'ai un marché de vente, parce que je vends quand même 80% de ma marchandise à des agriculteurs et à d'autres, et à des négociants que eux revendent, bien sûr, à d'autres agriculteurs. Donc, je ne pourrais pas me reconvertir en bio. Je ne dis pas que si mon fils... Bon, risque de s'installer dans les années à venir, ou même peut-être demain. Bon, si on peut arriver à trouver du foncier, peut-être qu'il partirait en bio.
Donc ça veut dire au moins que vous laisserez votre fils, enfin, vous n'avez pas forcément votre mot à dire, mais bon, en tout cas, ça ne vous déplaît pas qu'il devienne agriculteur ?
Ah non, pas du tout. Ça ne devient pas qu'il devienne agriculteur. Ça me convient même qu'il passe en bio. Bon, le seul problème par rapport au bio, parce que je suis quand même placé par rapport à mes responsabilités, bon... de voir la différence entre le bio et le conventionnel. Bon, le bio, il faudra pas qu'on aille au-delà de l'offre et la demande. Il faut qu'on reste quand même prudent, sachant qu'il faut des exploitations en bio. Il y a encore de la demande à l'heure actuelle, mais il faudrait pas boucher le marché non plus. Donc voilà, une certaine prudence de ce côté-là, parce que si on bouche le marché en bio, le problème qui va se passer, c'est que les exploitations en bio vont avoir une vente qui va être moindre, et qu'à la sortie, on risque de baisser, je veux dire, pas le coût de production, mais le revenu des producteurs bio, et ce n'est pas le but. Si on le baisse, on risque d'avoir des difficultés chez les producteurs bio aussi.
Merci Serge Guillère, merci Inès de Rancourt. On reste dans cette ferme à Sous pour continuer à évoquer aux environs de 8h20, cette fois-ci, la manière dont l'agriculture influe sur le territoire, sur la manière dont vivent aujourd'hui les campagnes. Il est 8h à Sous, comme dans le reste de la France.